engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
L'Université d'Orléans était en fête il y a 2 semaines. Le Happy Campus Day s'est tenu le 19 septembre et au cours de ce festival de la rentrée universitaire, les associations et structures consacrées à la vie étudiante étaient de sortie au niveau de l'esplanade du Bouillon. Radio Campus Orléans était bien sûr de la partie avec son studio mobile installé juste devant le cône. Une émission s'est tenue en direct au cours de laquelle 2 invités de marque étaient reçus. Éric Blond et Mostefa Fliou, respectivement président de l'université et directeur du CROUS d'Orléans, en tour, était sur le plateau de Radio Campus pour répondre à nos questions. On a parlé de l'articulation entre les services de l'université et ceux du CROUS, mais aussi des actualités liées à ces 2 entités, à la vie étudiante et aux projets structurants de l'université.
C'est l'heure d'accueillir nos invités.
Je pensais que tu lançais un jingle. Bonjour,
non,
bonjour à nos 2 invités, donc Mostefa Fliou, je le prononce bien,
ouais,
parfait, directeur du CROUS, nouvellement arrivé au mois de février, et nous avons le plaisir de vous recevoir en compagnie de monsieur Éric Blond, président de l'Université d'Orléans. On est vraiment très content de vous avoir tous les deux sur le plateau parce qu'on trouvait vraiment que les échanges pouvaient être très intéressants. Hassan, également, tu es avec nous pour nous accompagner également.
Bonjour Thomas.
C'était pas prévu au départ, mais je pense que t'es le bon binôme pour faire l'interview.
Je suis en spectateur et je suis là en debunker, comme on dit en
ouais,
français.
Ouais, c'est ça, voilà. Fact-checking.
Oui, c'est ça. Allons-y.
Exactement. Non, j'avais une première question pour vous, monsieur Fliou. Vous êtes arrivé au CROUS en tant que directeur général, donc en février dernier. Avant cela, vous étiez plutôt dans le volet éducation nationale, il me semble, à l'Académie de Poitiers, puis à Rouen et enfin à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez fait un tour à la DRAC aussi par hasard?
C'est tout à fait ça.
Ouais, exactement. Alors cette fois c'est le monde étudiant et son volet social avec le CROUS, ça doit un peu vous changer?
Pas autant que ça, parce qu'en fait l'éducation nationale c'est principalement le scolaire, mais il y a aussi l'enseignement supérieur.
Ouais.
Toutes les classes prépa sont dans des lycées, donc l'enseignement supérieur ne m'est pas complètement étranger.
D'accord.
C'est pas un changement global, quoi.
Alors, on s'intéressait à la situation dans laquelle vous avez retrouvé le CROUS lors de votre arrivée au mois de février. Quel travail est-ce que vous avez engagé et où est-ce qu'on en est depuis?
Alors, le CROUS d'Orléans-Tours est souvent où il a la réputation d'être la belle endormie. Donc le CROUS d'Orléans-Tours, il est...
N'hésitez pas à parler en face de votre micro, qu'on vous entende bien.
C'est une première pour moi. Donc,
je vous en prie.
Ça va mieux pour
oui,
vous
ouais,
très
mieux.
Bien. La belle endormie, c'est-à-dire que c'est un CROUS qui est doté de personnel qui est totalement mobilisé, très très investi dans le travail qui est le leur, avec une diversité de métiers, une mobilisation totale. Ce qui manquait peut-être à ce CROUS, c'est effectivement une volonté d'aller plus loin, d'avoir de la cohérence, de la coordination et renforcer le partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur qui, sans eux, on ne peut pas réussir vraiment une vie étudiante au bénéfice des étudiants.
D'accord. Parmi les nouveautés, notamment, on en avait discuté lors d'une précédente émission Écoute ta fac proche de la rentrée, c'est le côté développement durable avec notamment la nouvelle loi anti-gaspillage qui va amener quelques modifications dans la gestion des restaurants universitaires. Donc les restaurants universitaires du CROUS s'adaptent et ils proposent apparemment une équipe qui accompagnera les étudiants, qui accompagne peut-être déjà les étudiants à la dépose des plateaux pour les guider dans le tri des déchets et les aider aussi à adopter de nouvelles habitudes. Où est-ce qu'on en est sur la mise en place de cette mesure? C'est déjà d'actualité?
Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des chantiers que nous avons ouverts. Le conseil d'administration du CROUS Orléans-Tours et puis la commission restauration, la commission développement transition écologique, nous avons un plan d'action en plusieurs volets, dont celle que vous venez d'indiquer. Donc la transition écologique, ça porte aussi bien sur ce qu'on met dans l'assiette, mais aussi comment on habite nos logements. Il y a un gros programme, effectivement, d'isolation énergétique des chambres, des studios, etc. Mais en matière de restauration, effectivement, il y a de nombreuses actions. Vous en avez cité une sur la sensibilisation autour du gaspillage alimentaire. Hier, dans le restaurant ici sur place, il y avait une action de sensibilisation où, effectivement, a été exposé à tous les convives, les étudiants, tout ce qui était potentiellement jeté par an, par étudiant, de manière à ce qu'il y ait cette prise de conscience.
Au cours de cet entretien, il a ensuite été question de l'une des principales actualités du CROUS, la réhabilitation prochaine de la résidence universitaire des Hêtres, pour un coût estimé à près de 13 millions d'euros selon France 3 Centre-Val de Loire. Elle interviendra peu après une précédente réhabilitation qui s'est récemment achevée, celle de la résidence des Ormes qui a coûté 9 millions d'euros.
Et après cette opération de réhabilitation, est-ce qu'il y aura d'autres logements sur l'université d'Orléans qui vont mériter une attention particulière, ou est-ce qu'on en est justement des conditions de vie pour les étudiants? Je vous dis, j'ai eu un témoignage d'une personne alors qui n'est pas logée à l'université d'Orléans en temps normal. Elle était venue spécialement en fait sur quelques jours dans le cadre d'un événement particulier qui se passait à l'université. Il a été logé dans le CROUS, il est tombé sur des cafards. Voilà, pour vous dire les choses, c'est un témoignage qui m'a été relaté.
On en profite pour parler aussi des punaises de lit, mais bon.
Voilà, mais pardon, je me demandais en fait où est-ce qu'on en était de cet état-là. Ouais.
Alors, je vous laisse finir sur les punaises de lit et les cafards. Je pense que ça, c'est pas propre aux résidents du CROUS. On en trouve partout. La région parisienne était complètement infestée. C'était pour l'info de tout un chacun, mais je pense que c'est en votre possession. Il y avait un comité interministériel qui se réunissait en pré-JO sur la question des punaises de lit. Donc c'est pas propre au CROUS. Donc voilà.
D'accord.
Par contre, ceci dit, nous avons un effort, effectivement, à faire. Le CROUS a un marché qui est un marché national. À chaque fois qu'il y ait une découverte quelconque de puces ou de punaises de lit, etc., il y a un protocole qui est totalement strict, pris en charge intégralement par le CROUS, et c'est fait. Sur les cafards, pas plus tard que ce week-end, toutes les résidences, en préventif cette fois-ci, il y a eu une intervention d'une boîte qui est effectivement, qui a pignon sur rue, qui justement fait du préventif. Donc voilà le CROUS, ce que fait le CROUS. Mais d'un autre côté, posons-nous la question, est-ce que lorsqu'il y a un protocole strict de l'étudiant, je ne veux pas le pointer du doigt, ou celui qui est résident, il peut être ne pas être un étudiant, de respecter scrupuleusement, parce que comme chacun le sait, on peut faire toutes les mesures de prévention et tout le curatif, ça nécessite aussi l'implication des uns et des autres. Mmh. C'est un sujet important sur lequel on y travaille pour améliorer les conditions de vie des étudiants dans nos résidences.
On va leur passer le message, mais je crois qu'ils ne seront pas d'accord avec vous.
Ils nous partagent.
Ils pensent globalement que beaucoup vient de vous, en fait.
Oui, bien sûr, mais c'est si on veut. En tout cas, nous, on fait le strict nécessaire. On fait tout ce qui est en notre possession, avec des professionnels. C'est connu de tout le monde. Et on peut venir avec les représentants des étudiants. Il y a des gens, d'ailleurs, les référents étudiants dans les résidences, qui peuvent en témoigner. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, on est ouvert au dialogue avec vous.
Alors, ça nous intéresse beaucoup de vous avoir tous les deux sur le plateau, parce que pour comprendre notamment aussi la manière dont les questions sociales peuvent être traitées sur le campus orléanais, on sait qu'il est parfois difficile de savoir qui fait quoi ou qui propose quoi entre les deux entités que sont l'Université d'Orléans et le CROUS, en fait, en matière d'aide sociale ou d'aide étudiante. J'ai pu entendre aussi de temps en temps que des tensions ont pu exister de temps en temps chez les personnels à ce sujet pour connaître un peu les délimitations sur telle ou telle mission. Moi, je voulais savoir un peu comment le travail entre Université d'Orléans et CROUS d'Orléans-Tours s'articule sur ce volet social et quelles sont les délimitations de chaque structure, quelles sont les pistes aussi peut-être d'amélioration pour encore mieux collaborer ensemble et contribuer davantage encore au bien-être étudiant.
Déjà, sur les relations entre nos deux établissements, elles sont excellentes. On se voit régulièrement, on échange rapidement, que ce soit par mail, SMS ou autre.
Donc, oui, la venue de Monsieur Fliou a été très bien accueillie, j'imagine.
Je pense que la belle endormie est en plein éveil. Donc on est dans une situation qui n'a rien à voir avec celle qui a pu exister peut-être il y a de longues années.
D'accord.
Après, les tensions ont été fortes au moment du Covid. Le Covid a révélé des situations complexes. Pour en donner une, puisque j'étais au cœur du réacteur à l'époque, on ne pouvait pas s'échanger des fichiers nominatifs. Avec le RGPD, on ne pouvait pas. Et donc on était dans des situations folles, puisqu'on avait d'un côté et de l'autre des listes d'étudiants potentiellement en difficulté qu'on ne pouvait pas, selon les protocoles en vigueur, échanger de manière simple. Aujourd'hui, il y a toujours le RGPD, mais il y a une grande différence, c'est que nos services travaillent beaucoup mieux ensemble. Il y a des réunions régulières, nos assistantes sociales travaillent ensemble, nos directions de vie étudiante travaillent ensemble. Et vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, notre Happy Campus Day, je pense que vous avez dû constater qu'il n'était pas comme l'année dernière. Pas parce qu'il fait beau, Ok, je vois, c'est facile, je préviens le truc.
Ah, moi j'étais à Gien, donc je ne l'ai pas vu l'année dernière malheureusement.
Mais regardez, la disposition des stands n'est pas la même, la présence de jeux gonflables qui n'étaient pas là avant. Bref, il y a tout un tas de choses qui bougent. Et ça, ça
et
montre...
la présence étudiante également à cette heure-ci.
La présence étudiante à cette heure-ci. Ouais. Et donc tout ça montre que la relation, puisqu'on le met, on le fabrique ensemble, ce Happy Campus Day. Voilà. Avant, c'était beaucoup l'université qui le faisait. Là, on voit qu'on le fait ensemble. Ça amène des changements dans le bon sens. Vraiment, je les vois dans le bon sens. Et au niveau des relations qu'on a, c'est vraiment dans cet esprit-là. Après, sur la délimitation, on va être très très clair. L'Université d'Orléans ne fait pas de restauration. Mmh. Voilà, donc ça c'est très clair. On ne fait pas d'hébergement. On fait une part du social, mais je dirais de premier niveau, hein, de première assistance, avec le guichet de l'aide qui est là vraiment, moi je dirais, c'est un peu le détecteur de fumée. Après, les vrais professionnels, c'est le CROUS. Et donc, je dirais, une fois l'étape du détecteur de fumée et cette première aide d'urgence apportée, normalement, le relais va... Alors, je cite le CROUS, parfois, ça va être la CAF ou même des associations d'aide dédiées. Mais il y a un moment où l'université passe la main parce que ce n'est pas notre mission et on n'en a pas les compétences, tout simplement.
Mmh. Ah, en complément, merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est deux entités, hein, administrativement parlant, il y a l'université et il y a le CROUS d'un autre côté. Mais le lien et le ciment, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses, c'est l'étudiant. Nous sommes au service de l'étudiant. Donc tout ce qui concourt à rendre le meilleur service à l'étudiant, nous saurons trouver la bonne intelligence pour pouvoir accomplir ce rôle-là. Et donc moi, je vous dis, voilà une confidence, hein, que ce soit personnellement, que ce soit les équipes, nous avons plaisir à retrouver le président et ses équipes pour pouvoir coopérer, pour pouvoir voilà, faciliter la réussite des étudiants de ce territoire.
C'est la rentrée, Éric Blond, les effectifs évidemment, là c'est la première question. On en est à combien d'étudiants et étudiantes inscrits à ce jour-ci?
Alors ça, c'est dommage que tu ne sois pas venu à la conférence de presse, tu aurais eu tous les détails, c'est vraiment dommage. Non, alors ce qu'on a dit en fait, c'est qu'au global, si on chipote, on doit être à moins 0,6%. Donc autant dire que c'est stable, hein, parce que là on est vraiment sur les grandes tendances. Une baisse constatée de quelques pourcents dans les UFR, une hausse marquée dans les IUT, une hausse à Polytech. Bon après, ce qui est kiné et médecine, c'est un peu stable pour les raisons qu'on sait. Hein. Donc globalement, si on regarde la démographie étudiante, elle est à la baisse. Donc comme la démographie est à la baisse et que nous on est relativement stable, ça veut dire que par rapport aux autres établissements, on est en hausse.
C'est moins 470 étudiants, c'était le chiffre que j'avais vu passer.
Ouais, c'est ça. Alors, sachant que nous, on se méfie beaucoup des chiffres de septembre, vous savez que pour nous, la référence, c'est le 15 janvier.
Oui, c'est ça. C'est
la remontée sise. Donc, on n'est pas à l'abri que ça continue à monter. Et là, encore récemment, j'étais contacté par des étudiants qui voulaient s'inscrire en master. Je voulais savoir si c'était encore possible. Enfin, voilà. Donc, nous, de notre point de vue, on va stabiliser peu ou prou aux mêmes effectifs que l'année dernière.
Et cette baisse sur tous les campus, excuse-moi. Sur tous les campus, on sait que l'Université d'Orléans, c'est également Chartres, Bourges.
Alors, il y a une hausse plus forte à Chartres, parce que l'IUT de Chartres a fait une hausse de 54%. On est passé d'un peu plus de 200 étudiants à un peu plus de 300. Donc là, un très très beau travail du directeur de l'IUT de Chartres. Et puis, globalement, je vous dis, tous les IUT ont augmenté, ça c'est vraiment bien, donc beaucoup, beaucoup plus fort à Chartres. Non, la petite baisse dans les UFR, pour moi, c'est le reflet principalement de la démographie. Mais je tiens vraiment à insister, hein, quand on regarde la démographie, comment elle descend, c'est vraiment très bon signe que l'Université d'Orléans se stabilise, ça montre qu'il y a une bonne attractivité. C'était la première année de notre nouvelle offre de formation. Les nouvelles formations qui n'existaient pas avant et qui ont ouvert cette année sont toutes complètes. Toutes. Okay. Donc ça montre que ça répond vraiment, on a su répondre à l'attente des étudiants. Maintenant, évidemment, il faudra faire le bilan dans 3 ans pour les licences, voir si on répond bien aussi aux attentes du marché de l'emploi. Mais normalement, je vois sur la licence entomologie, on n'a pas trop de doutes, par exemple.
Les subventions de l'État liées justement au nombre aussi d'étudiants sont pas mises en difficulté.
Alors, il faut tuer un mythe. Depuis 2012, à savoir le passage à l'autonomie des universités, il n'y a pas de lien entre le nombre d'étudiants et la subvention de charges pour services publics.
D'accord.
Donc en fait, qu'on ait des effectifs à la hausse ou à la baisse, ça ne se voit pas sur notre subvention. Globalement, hors dotation exceptionnelle, par exemple pour la faculté de médecine, mais si vous mettez ça à part, vous pouvez considérer qu'une subvention de charges pour services publics, elle est soit constante, soit augmentée de 0,5%. Vous voyez un peu Donc il n'y a pas de lien avec le nombre d'étudiants. C'est ce qui avait posé de très très graves difficultés à l'Université d'Orléans quand on était monté à plus de 21 000 étudiants, c'est qu'en fait on avait toujours les mêmes moyens.
Faculté de médecine, donc, vous en parliez, Eric Blond, c'est la success story, la récente success story de l'Université d'Orléans. On en est où, là? C'est la troisième rentrée?
Alors, c'est la rentrée des troisièmes années du premier cycle.
Oui.
Donc, on arrive à la fin du premier cycle. On en est très, très avancé dans le montage du deuxième cycle. Et ce deuxième cycle ouvrira en septembre 2025, avec la première année du deuxième cycle. C'est la... Alors, pour ceux qui parlent la langue ancienne, c'est le début de l'externat.
D'accord, oui, absolument. Ça pose évidemment un problème. C'est les lieux où sont donnés les cours à l'Université d'Orléans. Pour l'instant, cette faculté de médecine est en DEG, droit, économie et gestion, qui doit déménager, va déménager.
Mais soyons positifs, non, elle va déménager. Qui peut croire que le projet va s'arrêter?
Rentrée 2027, hein, on est toujours là-dessus.
Personne ne peut croire que ce projet s'arrêtera. Madeleine se fera. J'ai pas besoin de toucher du bois, c'est une évidence. Les coups de pelle ont commencé. Non, après, oui, il peut y avoir une petite incertitude sur la date. On va avoir une période de 2024-2025, puis 2025-2026 qui va être tendue, c'est-à-dire qu'on va devoir optimiser vraiment la gestion de nos locaux, on le voit bien, avec la période la plus tendue, ça va être les examens. Les examens, puisqu'il y a les examens des sciences, les examens l'UFR droit éco-gestion, les examens de médecine, tout ça tombe à peu près sur les mêmes dates. Et le plus problématique, c'est qu'en plus, on va avoir les travaux de la halle des sports, qu'on a l'habitude de transformer en salle d'examen. Donc pour faire face à ces difficultés, deux mesures. La première, on travaille à la mutualisation des amphithéâtres de l'ensemble des composantes de l'université. Donc on commence avec droit éco-gestion, IUT d'Orléans. On verra si on ne va pas embarquer quelques autres dans la phase de test. Enfin, quand je dis test, c'est là maintenant, hein, et puis amplifier l'année suivante. Et puis la deuxième piste qui va être travaillée en parallèle et qui, je pense, on n'y coupera pas, devrait être mise en place en parallèle, ce sera la location de salles extérieures sur la période des examens.
On va parler de précarité étudiante,
oui, mais
juste avant, c'était pour revenir à votre précédente réponse, Eric Blond, c'est pour parler des dotations d'État. Il y a ce qu'on appelle, on parle là de Happy Campus Day, la CVEC. C'est une...
Je vais te le dire, contribution vie étudiante et de campus. Voilà, que payent les étudiants à l'inscription.
En plein mois de juillet, le ministère décide d'accorder également aux établissements privés cette contribution de retourner des fonds. Ça a choqué plein de gens, notamment des syndicats étudiants. Vous, président, au sein du... Alors, c'est la CPU, ça se dit tout.
France Université.
La conférence des présidents d'université. C'est
France Université.
Au sein de France Université, vous avez réagi comment, vous, en
tant que président? Alors, il faut savoir que ce décret est sorti sans qu'on en soit informé. Habituellement, les décrets passent par France Université, et puis on donne des avis, on échange. Là, en fait, quelques-uns ont eu la version finalisée 4 jours avant qu'elle sorte.
C'est pas vrai?
Ah oui, si.
Ils sont sérieux à ce point-là.
Donc, on n'a pas été associé à cette décision, donc vous imaginez notre position. Mais ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est pas ce décret. Ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est la volonté d'un certain nombre de politiques ou de syndicats de supprimer cette CVEC.
Ah ouais, on en est là.
Parce que cette volonté de dire il faut retirer cet impôt, le risque, c'est qu'on n'aurait plus les moyens de faire ce qu'on fait. Et là, nous, ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est ce travail qui est mené par un certain nombre de politiques de dire il faut supprimer la CVEC. Également des syndicats étudiants, hein. Mais il faut avoir conscience que derrière, c'est des emplois au service de la vie étudiante. Derrière, ce sont des actions aussi bien sociales, santé que événementielles, hein. Le Happy Campus Day profite de la CVEC.
On appelle ça la redistribution.
C'est le principe de la redistribution nationale. Et donc, ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui au sein de France Université, c'est cette crainte, vraiment cette peur qu'on aille vers une suppression. Et là, on serait en grande difficulté. Maintenant, pour répondre à la question de départ, on vient d'inventer l'impôt fléché directement vers des établissements privés. Donc c'est nouveau, c'est une solidarité nationale pour des établissements privés.
Et alors quelle va être la réponse justement de France Université? Est-ce que par hasard, entre présidents d'université, vous réfléchissez pour une tribune commune ou quelque chose, si justement il y a une unanimité ou en tout cas une forte majorité qui est opposée à ce nouveau décret?
Alors les tribunes, c'est bien, mais aujourd'hui, avec la situation politique actuelle, je pense que la tribune, elle ne servirait pas à grand-chose. Il faut être réaliste, il n'y a pas d'interlocuteur. On a des dossiers complexes. Là, actuellement, le travail qu'on mène, c'est déjà évaluer l'impact financier réel de cette décision. À savoir, est-ce que ça va nous baisser Aujourd'hui, on estime que la baisse serait entre 3 et 6%. Certains collègues imaginent qu'elle monterait jusqu'à 10%. Ça peut être très très élevé. Donc aujourd'hui, déjà, on essaye de travailler sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que le ministère avance que la baisse serait de 1 euro par étudiant quant au reversement auprès des universités, ce qui nous paraît complètement sous-estimé. Et donc l'enjeu numéro un pour nous, il est là. On n'est plus dans cet esprit de faire des tribunes là, voilà, dans les mois actuels. Je pense que ça ne serait pas d'une grande efficacité.
Juste, vous avez un point de vue là-dessus ou pas sur
un point de vue sur la CEVEC?
Oui. Hormis
celui de confirmer ce que Monsieur le Président vient de dire, que sans la CEVEC, de nombreux projets d'établissements, mais aussi de moins grands établissements, pour avoir des activités et des projets à financer. Quoi. Ouais. Effectivement, l'idée de la solidarité nationale, la solidarité étudiante, la redistribution, elle est au cœur du dispositif. Donc, voilà.
Ouais. Et je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais ça concerne pour l'Université d'Orléans, ça concerne quel budget? Vous avez une petite idée, Yglon?
À peine un million.
Ouais, enfin,
parfois au-dessus,
mais
parfois
au-dessus. Ouais, mais si on dit 10% sur un million, ça ne serait pas négligeable. Hein.
On n'est pas sur des petites sommes.
Ouais,
hein.
Tout à fait. Ouais. Ok. On a terminé sur la CEVEC, qu'on voulait parler effectivement de précarité étudiante. Je voulais rebondir un peu sur les dernières enquêtes que l'on avait vues passer, notamment de la part de l'UNEF, mais aussi de Haut Campus, à propos de la précarité étudiante. Donc le syndicat UNEF avait publié son baromètre là-dessus, la Fédération Orléanaise Haut Campus a fait sa propre enquête. Les deux organisations s'accordent sur le fait que près de la moitié des étudiants ne mangent pas à leur faim en France, mais aussi à l'Université d'Orléans, ce chiffre évidemment est corroboré. Vous partagez déjà ce constat tous les deux, et est-ce que, si c'est le cas, quelle problématique principale les étudiants d'Orléans rencontrent-ils et les amène justement à cette situation de ne pas manger à leur faim pour la moitié d'entre eux?
Alors, pour l'Université d'Orléans, notre baromètre, comme je l'ai dit, c'est le guichet de l'aide. Hein. On voit bien les étudiants qui se présentent au guichet de l'aide. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le nombre d'étudiants qui se sont présentés au guichet de l'aide a explosé. Voilà, cette année, à la rentrée, beaucoup d'étudiants. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il est beaucoup plus connu qu'avant? Si ça ne pouvait être que ça, ce serait bien, mais malheureusement, on pense que ce n'est pas que cela. Et le problème principal, c'est le logement. Sur Orléans, on observe, là, cette année, on le sentait venir. Hein, ça faisait déjà un an et demi, 2 ans qu'on disait attention, le problème arrive. Bon, là, maintenant, il est bien là. On a une tension extrêmement forte sur le logement étudiant. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on était sur plus d'une centaine d'étudiants en difficulté de logement, là, sur la rentrée.
D'accord. Mostefa Fliou, pareil, quel est votre regard sur cette situation?
Je ne peux que confirmer le propos de M. le Président. Ça va avoir, effectivement, nous avons aussi une relative augmentation, hausse d'étudiants qui se présentent, effectivement, auprès du service social pour bénéficier du tarif du repas à 1 euro. Parce que vous savez que c'est le tarif pour les boursiers, mais les non-boursiers, effectivement, qui sont, après évaluation de leur situation sociale, peuvent prétendre au repas à 1 euro. Donc le nombre de dossiers, le nombre de fréquentations des assistantes sociales a augmenté. Mais ceci dit, on essaye autant que faire se peut. Donc effectivement, la précarité, elle est là. C'est difficile de l'apprécier concrètement avec des éléments et des indicateurs chiffrés. Mais le CROUS, dans la limite des moyens qui sont les siens, essaye de répondre du mieux. Et d'ailleurs, nous avons une convention qui est en cours de préparation avec l'ESOP. C'est une association qui permet d'apporter de l'aide alimentaire.
Ouais. Sous la fameuse épicerie
exactement,
sociale.
Épicerie solidaire. Donc à chaque fois qu'il y a, dans notre périmètre, sur le domaine d'activité ou celui de l'université pour qu'on travaille ensemble, ou aussi avec d'autres partenaires.
D'accord. Et alors ça, on est sur les constats. Et maintenant, comment est-ce que... Alors, on ne pourra jamais répondre évidemment totalement à cette situation, mais comment est-ce qu'on, pareil, on améliore les choses? Comment est-ce qu'on travaille, on articule le travail peut-être entre vous deux pour répondre à ces difficultés que l'on constate, que ce soit par le guichet de l'aide ou par ces différentes enquêtes que l'on a pu voir passer?
On a une première action qui est en train de se monter hein, pour pouvoir offrir des logements supplémentaires avec des bailleurs sociaux. On est en train de mettre en place un fonds de garantie de loyer, ouais. Qui sera cofinancé par la métropole, l'université, la région, je crois bien.
Ouais,
donc voilà, qui va permettre au CROUS de disposer d'une manne financière pour augmenter le parc de logements qu'on pourra offrir à des tarifs, j'allais dire CROUS. Auprès des étudiants. Donc ça, c'est une première action alors elle n'est pas en place aujourd'hui, mais on est à deux doigts de la finaliser, voilà, parce qu'il y a quand même des enjeux financiers à chaque fois derrière, mais c'est en train de se mettre en place. On a pas mal échangé sur la question de la restauration avec, alors je pense par exemple au cas particulier d'Issoudun, où on a, parce qu'on voit toujours les grands centres, mais il y a des fois des difficultés. Si vous allez à Issoudun, il n'y a pas de Crous. Voilà. Mmh. Pourtant, il y a un IUT. Mmh. Donc on travaille ensemble pour voir comment on peut, le Crous financer une partie dans un lycée ou un collège à proximité, le département aider, la région, et que ces étudiants puissent bénéficier finalement d'un repas tarif Crous dans un établissement qui n'est pas le RU, mais qui accepte de jouer le jeu. Donc voilà, on monte comme ça des solutions un peu à la carte et avec des travaux. Alors je pense à Issoudun parce que c'est une situation particulièrement complexe et faut pas oublier ces sites-là. Donc voilà, on est vraiment sur des actions un peu, j'ai envie de dire presque on fait de la dentelle. Aujourd'hui, pour moi, la plus grande situation de précarité, c'est l'étudiant qui est sur un site de proximité, loin d'Orléans ou de Tours, hein, pour faire simple, et qui n'aura pas forcément justement le guichet de l'aide ou le bureau du Crous à proximité. Mmh. Et donc c'est là, je pense, qu'il faut qu'on travaille le plus dans les mois et... j'allais dire année, j'espère que ça finit en quelques mois.
Nous sommes d'accord là-dessus. Les étudiants étrangers.
Simplement en complément, donc, pour le Crous, nous avons aussi des partenariats qui permettent effectivement de relancer cette idée de l'accès aux droits. C'est-à-dire que les assistantes sociales du Crous travaillent avec leurs homologues du scolaire, hein, avec les assistantes sociales qui sont dans les lycées, etc., pour faire connaître l'ensemble des dispositifs d'aide, effectivement. Donc on est dans une étape, notamment à partir de cette année, ce qu'on appelle aller vers, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants, les futurs étudiants, tant qu'ils sont au lycée, au lien avec les assistantes sociales, sur l'accès aux droits. Parce que en fait, pour ouvrir les droits, il faut le DSE, hein, c'est la clé de Sésame. Et donc du coup, on essaie de sensibiliser au maximum les étudiants sur ce dossier.
Et les étudiants étrangers, parce que quand on parle de précarité, pour eux, c'est précarité plus. Alors, qui blâmer ? L'université, le Crous ? Qui n'ont pas de logement ? On a eu quelques exemples ici à la radio.
Étudiants étrangers, il y a deux grandes catégories. Alors, on dira extra-communautaire, hein, faut être très clair.
Absolument, oui.
Ceux qui viennent dans ce qu'on appelle nous des mobilités encadrées, c'est-à-dire des conventions avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur hors Europe, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté parce qu'en fait, comme c'est encadré, tout est prévu à l'avance et ça se passe très bien, avec des fois un petit retard de visa éventuellement, mais ça roule bien. Là où on a une réelle difficulté, ce sont les étudiants qui arrivent par eux-mêmes, en dehors de toute convention. Et là, ils arrivent, alors déjà, on ne sait pas qu'ils vont venir, ils n'ont pas toujours les papiers qu'il faut, et ils n'ont pas toujours les informations qu'il faut. Et là, on est en grande difficulté parce qu'en général, avec le Crous avec qui on a discuté pour préparer la rentrée, on a réservé des chambres à l'avance pour nos étudiants extra-communautaires. Alors, on a beau faire un petit surbooking auprès du Crous, on se dit, bon, on va en prévoir 10-15 de plus au cas où. Mais s'il y a 25 étudiants de plus, on est coincé. Et donc, notre difficulté majeure, ce sont ces étudiants extra-communautaires qui arrivent en dehors des conventions. Là, on doit reconnaître qu'on a une vraie difficulté.
D'accord. Tu voulais rien rajouter par rapport à cette question ?
Ah non, la réponse me suffit.
D'accord, très bien. Moi, j'avais aussi une question. Alors, c'est de l'actualité pour le coup. On a vu passer cette information partagée par le SNES FSU. Il me semble que je retrouve l'information, c'est 4 universités sur 5 en France risquent d'être en déficit d'ici la fin d'année. Où est-ce qu'on en est à Orléans ? Est-ce qu'on en fait partie ?
Il paraît que non.
Alors Orléans, pour notre plus grand malheur, nous allons très bien. Non, notre budget rectificatif qui n'est pas encore présenté au conseil d'administration, il sera présenté la semaine prochaine.
FSU, hein, je précise.
Il sera présenté la semaine prochaine, vendredi prochain. Il a été présenté au rectorat. Donc nous, on a un solde budgétaire positif, on a un résultat positif.
Mais comment arrivez-vous à ça ? Vous serrez les vis plus que les autres ?
On maintient la ligne. On maintient la ligne. Il y a eu un travail extrêmement fort de fait sur l'offre de formation. Notre vice-président à la formation a veillé à ce qu'on ait une offre de formation soutenable, à la fois financièrement et humainement. C'est-à-dire que les collègues aient un volume d'heures à faire qui soit normal. Alors ça a entraîné des conséquences, il faut le reconnaître. En droit, par exemple, on a baissé nos capacités d'accueil de 150 places. Voilà, c'est vrai qu'il y a 150 places de moins en droit cette année. On a baissé, fut un temps, les capacités d'accueil en STAT, c'est vrai aussi, mais on a fait le choix d'offrir des nombres de places qui soient en regard de nos capacités réelles à accueillir pour que nos étudiants soient bien accueillis. Voilà. Donc ça a été un choix politique de dire on fera ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Le coût, c'est qu'on a réduit le nombre de places par endroit.
un mot sur le personnel de l'université. Il n'y a pas que les étudiants et les enseignants, il y a aussi le personnel administratif. Il y a quelques années, vous le savez, Monsieur le Président, on a beaucoup parlé dans cette radio de souffrance au travail. On en a eu moins cette année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez réglé tous les problèmes ?
Oh, ce serait bien. Malheureusement, non, ils ne sont pas tous réglés. Je pense que déjà, en essayant de ramener l'établissement sur des effectifs plus en phase avec ses moyens, ça aide quand même à ce que ça se passe mieux. Ensuite, il y a quand même eu un travail de fait de revalorisation des grilles indemnitaires qui nous a permis de regagner un peu en attractivité. Et cette année, par exemple, si je fais le solde entre les départs et les arrivées, on a 30 postes de moins de vacants. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait beaucoup de postes vacants. Cette année, il y en a 30 de moins qui sont vacants. Donc du coup, ça fait des personnels en plus, ce qui est une bonne chose. Et au global, sur les 4 dernières années, on a réussi à augmenter le nombre de personnels.
D'accord. On approche des élections étudiantes, bien évidemment. Alors d'abord, pour repréciser pour nos auditeurs, je rappelle aussi, votez, hein, si vous êtes étudiant, votez, il y a très peu de participation. Donc on va renouveler les membres du conseil d'administration et du conseil académique. Donc on va renouveler les membres pour les représentants étudiants du 25 au 27 novembre. Les représentants du personnel, ce sera du 2 au 4 décembre. Et s'en suivra l'élection, bien sûr, à la présidence de l'université, janvier prochain, je crois.
23 janvier 2025. Ouais,
c'est ça. Donc le ou la prochaine président ou présidente de l'université sera élu par le conseil d'administration. Vous repartez, j'imagine ?
Bah, écoutez, on en a pas mal discuté avec les collègues, on a pas mal réfléchi. Objectivement, le retour qu'on a, c'est que le bilan est quand même globalement positif. Si on regarde l'université d'Orléans en 2021 et aujourd'hui, on a fait quand même un grand bond en avant. Ensuite, je vous cacherai pas qu'on a beaucoup de beaux projets qu'on a démarrés. Vous devez savoir que quand on démarre des beaux projets, on a envie de les voir aboutir.
C'est la fameuse formule en politique, une année pour mettre en place les projets, je crois, et le deuxième mandat pour les concrétiser, quoi.
C'est
la formule un peu en politique, deux mandats.
Mais c'est une réalité, et vous verrez que dans l'équipe qui vient avec moi pour y retourner, on est, comme on dit entre nous, partiellement renouvelé, puisqu'il y a une majorité des collègues qui souhaitent poursuivre, parce que, comme vous le dites, on a initié des choses. C'est aussi quelque part un devoir de les porter jusqu'au bout, parce que initier des choses puis partir, c'est presque facile. Maintenant, il va falloir les mener jusqu'au bout.
D'accord.
Je vais finir par cette question, c'est peut-être pas votre problème, mais on a beau chercher, on ne trouve pas de candidat, de liste candidate opposée à vous. C'est quoi, vous êtes tué la concurrence, quoi, Monsieur le Président.
Alors écoutez, je vous avouerai que si liste candidate il y a opposée à la mienne, je ne suis peut-être pas la première personne qui serait venue voir.
C'est bien ce que je disais.
Et donc je ne suis pas au courant. Ouais. Maintenant, si jamais ça se concrétisait, vous aviez raison, ça n'empêche pas qu'il faut aller voter. Parce qu'un conseil sans élu, ça ne fonctionne pas. Ensuite, les gens qui étaient sur des listes dites d'opposition l'ont bien vu au CA, moi j'aime travailler avec des gens d'opposition constructive. Donc il n'y a pas de difficulté à ce qu'il y ait des listes, c'est au contraire, c'est la démocratie. Et l'absence totale d'opposition ne serait pas bonne pour l'établissement.
Eh bien, merci beaucoup Éric Blond, Mostefa Fliou, respectivement président de l'Université d'Orléans et directeur du CROUS Orléans-Tours. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'était bien de vous avoir tous les deux en même temps à l'antenne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
et
à
si vous.
Vous
me permettez juste un
oui.
dernier mot.
Ah oui, allez-y, je vous en prie.
Non, il n'y a pas de souci. Un grand merci aux équipes parce que nous, on est là, mais derrière chacun d'entre nous, il y a des équipes qui œuvrent collectivement pour que les étudiants soient le mieux accueilli possible, même parfois avec des punaises de lit, bon, en tout cas qu'ils réussissent leur parcours scolaire. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de remercier à la fois les équipes, souhaiter une bonne journée aux étudiants.
Merci à vous.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop. We'll be right back.
garçon, à l'appel de votre numéro, faites un pas en avant et lisez haute voix la phrase qu'on vous a donnée, vu ? Numéro 1, un pas en avant.
Radio Campus.
C'est quoi le texte ?
Genre une idée, une phrase choc. Genre Radio Campus, tout va bien dans le meilleur des ondes.
Radio Campus, 88.3 FM.
I arise.
Quelques artistes contemporains de jeunes talents bilingues, comme vous voyez.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Fading. าย
จากถ้อยคำคืนไปอย่าไว้ไฟนะพวกคุณ
อย่าโกรธเลยการด่าเมตตานึกว่าการุณ
มาอย่าทำใจพุ่นวันถูกคุณใช้มนต์มายาจากบทเรียนนั้นน้องผู้ชายทุกคนหลอกชมนารีมีมากนักหนามากด้วยเลมาอย่าซ้ำยังเล่นมนต์คาถาหาทางทำลายยังเล่นมนต์คาถาหาทางทำลาย